Les quatre colonnes, la chronique qui décrypte l'actu sur Radio Immo.
À la une des quatre colonnes cette semaine, le statut du bailleur privé, débattu pour la première fois à l'Assemblée nationale. La première bataille gagnée il y a une quinzaine de jours à l'Assemblée nationale autour du statut du bailleur privé signe-t-elle la création définitive de ce statut ? Les professionnels du secteur y croient de moins en moins et son avenir reste incertain au moment même où les députés ont rejeté vendredi dernier à la quasi-unanimité le budget de l'État pour 2026. Malgré le refus des écologistes, des communistes et des insoumis, le statut du bailleur privé a donc finalement été adopté tard dans la soirée du 14 novembre aux alentours de 23h devant un hémicycle éparpillé. Par 558 voix pour et 49 voix contre, en échange du gouvernement à réduire significativement les prélèvements imposés aux bailleurs sociaux, une forte demande prononcée par les socialistes. La dernière copie prévoit ainsi un amortissement fiscal de 3,5% par an pour le logement neuf, à loyer intermédiaire, 4,5% pour un logement social et 5,5% pour un logement très 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 social, dans la limite de 80% du bien et 8000 euros par an pour deux logements maximum. Les loyers du marché libre, eux, sont exclus du dispositif. Pour les logements anciens et sous conditions de travaux, les taux seraient fixés à 3%, majorés de 3,5% à 4% si les bailleurs loueraient à des tarifs inférieurs au marché. Le logement devrait avoir fait l'objet de travaux représentant au moins 20% de son prix d'acquisition. Écoutons aux quatre colonnes Mickaël Cosson, député MoDem des Côtes d'Armor et co-rapporteur avec le sénateur LR du Nord Marc-Philippe Daupresse sur la création du statut du bailleur privé qui proposait, lui, un taux de 5% dans le neuf et de 4% dans l'ancien, sous condition de travaux représentant à peu près 15% de la valeur du logement.
Disons que c'est une première bataille, parce que déjà ça a été l'occasion de pouvoir débattre sur la question du logement, chose qui n'a pas forcément été le cas depuis de nombreuses années, et également l'occasion de pouvoir inscrire... dans le temps, jusqu'à ce que le budget ait pu être rejeté, la notion de statut de bailleur privé, avec bien entendu les conditions qui restent encore à améliorer. Ça, on en est parfaitement conscient, j'en suis parfaitement conscient pour avoir travaillé sur la mission, mais l'idée c'était de pouvoir l'inscrire dans le temps, ce qui a pu être fait notamment déjà avec l'amendement du gouvernement, insuffisant pour créer les conditions de relance du logement, mais suffisante pour pouvoir continuer à le voir se débattre au Sénat. Ce qu'il faut retenir, c'est que la question de l'amortissement a été actée. Il reste encore à évoluer sur les taux, hein, pour justement arriver à un taux suffisant pour pouvoir justement permettre à des propriétaires de se projeter. Il y a eu bien entendu la question sur la durée d'amortissement. Ensuite, des règles ont été imposées, notamment la question des plafonds de ressources. Donc ça reste encore à l'évoquer, c'est ce qui sera évoqué au niveau du Sénat. La question du nombre de logements qui a été instauré pour justement faire en sorte que ce soit une majorité de particuliers qui puissent bénéficier de cet investissement, donc à voir aussi comment cela est possible. Et après, il nous reste encore, il y avait la question de l'IFI alors qu'elle a été écartée, mais on peut pas demander à des Françaises et des Français de participer à la relance du logement tout en d'un autre côté les pénalisant. Je crois que si on est sur un investissement de longue durée, on connaît les difficultés qu'on peut rencontrer sur la longue durée lorsqu'on loue, et donc il faut aussi en tenir compte, mais tout ceci fera partie des débats qui auront lieu au Sénat avant qu'il ne puisse se revenir à l'Assemblée avec, je l'espère, à l'issue un budget sur lequel pourra s'accrocher le statut de bailleur privé de manière à relancer le logement dès 2026.
Et que répondez-vous à Éric Coquerel, vice-président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, qui a été l'un des premiers à déplorer tard dans la soirée du 14 novembre ? Je cite « Ce Pinel du pauvre ne constitue pas le grand soir de la crise actuelle du logement ».
Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la France est le pays pauvre en matière de production de logements, il n'y a qu'à regarder les résultats. Ce qui est certain, c'est que si rien n'est fait, ce qu'on a vu en 2025, ce sera encore pire en 2026. Toutes les autorisations d'urbanisme qui ne sortent plus et tous les lots commercialisés qui ne sont plus commercialisés, c'est autant de logements qui ne trouveront pas acquéreur. Et l'idée, c'est pas qu'on se retrouve toutes catégories confondues, de l'étudiant aux jeunes actifs, aux seniors, sans logement.
Désormais, ce sont les sénateurs qui ont la main. Que pensez-vous? Quelle va être la stratégie adoptée, par exemple, par Marc-Philippe Daubresse et également Amel Gacquer sur ce texte?
Alors Marc-Philippe Daubresse, ce que je suis sûr, c'est qu'il aura le même comportement que j'ai pu avoir au sein de l'Assemblée à présenter justement un amendement au tout départ qui était la sortie conforme à ce qui avait pu être débattu à travers notre mission. Cette fois-ci, il aura, on va dire, une composition de son Assemblée un peu différente de celle de l'Assemblée nationale qui lui permettra, j'en suis certain, d'être suivi. Et ensuite, il s'agira ensuite de trouver les bons compromis pour faire en sorte que ce statut de bailleur privé ne soit pas simplement qu'un effet d'annonce, mais soit vraiment quelque chose de concret qui permette à celles et ceux qui décident d'investir dans la pierre de retrouver les conditions suffisantes pour pouvoir se projeter vers cet outil essentiel pour pouvoir reloger. Car avant tout, souvent, c'est le problème qu'on peut avoir lorsqu'on rencontre Bercy. On voit le coût que ça peut représenter, mais on ne parle pas de ce que ça peut rapporter, non seulement pour la question du logement. C'est quand même dommage que les étudiants renoncent à se loger, c'est quand même dommage que des actifs renoncent à pouvoir se fixer sur un premier emploi faute de logement, ou et l'inverse d'employeurs, de renoncer à des opportunités qui pouvaient se présenter faute de pouvoir loger leurs salariés. Donc tout cela, c'est un tout, et donc faisons en sorte qu'on soit sur du gagnant-gagnant et faire en sorte, en plus, comme économie, le bâtiment, qu'est-ce qu'il y a comme économie qui est non délocalisable? C'est bien le bâtiment, et de faire en sorte qu'en plus ce type d'activité irrigue notre territoire, non seulement dans les constructions, mais je pense à nos associations aujourd'hui qui bénéficient beaucoup de subventions de la part de ces acteurs. Donc faisons en sorte que 2026, ce soit l'occasion pas seulement de parler du budget qui est celui qui crée la suspension de la retraite, mais celui qui aussi permettra de pouvoir relancer le logement, permettre à des jeunes apprentis de pouvoir avoir des emplois pérennes. C'est un peu aussi l'objectif de ce statut de bailleur privé, c'est de faire en sorte que le logement, ce soit quelque chose sur lequel on se penche. Parce que c'est quelque part la première des choses auxquelles on pense lorsqu'on rentre chez soi, c'est on cherche les clés de son logement. Faisons en sorte qu'il y ait un maximum de logements qui puissent être construits pour que cette question ne soit plus seulement un problème pour beaucoup.
Depuis que l'Assemblée nationale a rejeté vendredi dernier à la quasi-unanimité une première lecture, le volet recettes du budget pour 2026, la France aura-t-elle d'après vous un budget d'ici le 31 décembre 2025?
Ça, j'ai envie de dire que derrière, si on comptait que sur le MoDem pour qu'il y en ait un, il y en aurait un. Puisqu'en fait, l'objectif, c'est d'avancer avec des compromis. Mais ça signifie aussi laisser des batailles aux différentes sensibilités qui sont présentes dans cette assemblée et de se concentrer sur ce sur quoi on est d'accord plutôt que sur ce sur quoi on n'est pas d'accord. Car je crois que cette échéance-là, elle n'a pas lieu en 2026, elle a lieu en 2027. Chacun pourra sortir le menu qu'il souhaite aux Françaises et aux Français, mais je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est d'un budget et permettre justement la relance du logement. C'était aussi quelque chose de fondamental. Et surtout qu'on arrête cette instabilité qui gangrène notre pays déjà depuis plusieurs mois, pour ne pas dire années.
Et sur le logement, on a pu voir que vous êtes en grande partie plutôt d'accord.
Oui, voilà. Sur le logement, c'est vraiment un sujet sur lequel on est capable de se mettre d'accord. Reste encore des conditions à déterminer, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est surtout aussi à chacun des groupes qui a pu s'exprimer et qui avait envie d'en débattre, qu'ils en débattent aussi avec les acteurs du logement, comme on l'a fait Marc-Philippe Daubresse et moi-même pendant des mois, pour qu'ils puissent se rendre compte que l'idée, c'est bien entendu qu'un statut de bailleur privé soit sur la table, mais pas que ce soit un statut de bailleur privé qui ne permet pas la relance du logement.
Désormais, le texte est dans les mains des sénateurs. Le sénateur LR, Marc-Philippe Daubresse, vient de déposer aux côtés de sa collègue centriste du Pas-de-Calais, Amel Gacquer, un amendement de manière à ce que l'amortissement fiscal dans le logement neuf soit de 5% sur 80% du prix d'acquisition du bien neuf et couplé à un bonus d'amortissement jusqu'à 1,5% pour les loyers abordables afin, en fait, de stimuler l'offre à loyer modéré. En tout cas, les chances de voir un statut du bailleur privé dès l'année prochaine s'amenuisent car le budget risque donc de ne pas pouvoir être soumis à un vote définitif avant Noël et de faire face à une loi spéciale avant le 19 décembre pour le prolonger sur les premiers mois de l'année ou encore d'être adopté par ordonnance. une dernière hypothèse déjà prononcée à plusieurs reprises par le Premier ministre Sébastien Lecornu.
Les quatre colonnes, la chronique qui décrypte l'actu sur Radio Immo.